La science CQFD, Natacha Triou.
Le pergélisol, ou permafrost en anglais, recouvre un cinquième de la surface du globe, 15 millions de kilomètres carrés. Pour la première fois depuis la fin du dernier âge glaciaire, il dégèle. Pourquoi est-ce l'une des plus grandes menaces pour le climat ? Comme pour les glaciers, le dégel actuel du pergélisol est inédit. Selon les experts du GIEC, il pourrait perdre jusqu'à 40% de sa superficie d'ici 2100, dans le scénario le plus optimiste. Il est un indicateur du réchauffement climatique, mais aussi un acteur, car il est susceptible de libérer de grandes quantités de gaz à effet de serre. Concrètement, si le sol gelé de l'Arctique venait à dégeler et à libérer l'intégralité de ses réserves de gaz à effet de serre, que se passerait-il ? Quels sont les risques climatiques et sanitaires ? Pergélisol, le dégel qui nous glace. Bonjour Florent Dominé.
Oui, bonjour Natacha.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et chercheur au laboratoire franco-canadien à Tacuvic à Québec. En duplex de Toulouse avec nous également, Laurent Orgogozo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur scientifique du projet ANR Hyperboréa et maître de conférence au laboratoire Géosciences Environnement Toulouse. Merci d'être avec nous en direct des studios de France Culture et merci à vous qui nous écoutez. En complément d'écoute, on vous propose de nous suivre sur Twitter, sur notre fil à Science CQFD, où vous retrouverez toutes les études, toutes les sources qui ont nourri cette discussion. Alors jusqu'à 17h, nous parlerons donc de l'importance de suivre l'évolution du pergélisol et des dangers, des menaces que représente ce dégel. Pour commencer, on va en Alaska pour notre Achille du jour en 1986.
Des passages serpentent pendant des kilomètres à travers le sol gelé de l'Alaska. La terre n'a pas fondu depuis des éternités. De la terre, du bois, des ossements qui remontent à des dizaines de milliers d'années sont gelés. Marcher dans ce tunnel, c'est comme remonter dans le temps. Tous les micro-organismes, les bactéries, la vie végétale et les sels dissous sont concentrés là. Nous pouvons faire des prélèvements et obtenir une excellente idée de ce qu'était la vie organique aquatique il y a à peu près 30 000 ans. C'est pour nous une parfaite machine à remonter le temps. On dispose de suffisamment de matière organique ici pour évaluer l'âge du carbone dans les couches de glace. Au profane, c'est vrai, le sol peut paraître uniforme, mais les chercheurs peuvent trouver de minuscules morceaux d'arbres et d'ossements très bien conservés à cause du gel.
Voilà une réaction à cet archive, Florent Dominé.
Mon bon vieux temps, quand j'étais justement en Alaska, dans ce tunnel, il y a une quinzaine d'années. Et effectivement, c'est un site extraordinaire pour l'étude du pergélisol, parce que on a accès à des échantillons de sol, comme le disait la personne, qui a plus de 30 000 ans. Et c'est vraiment exceptionnel d'avoir accès à cette archive. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que ce tunnel, maintenant, il devient très vulnérable et il va bien, si ça continue comme ça, dans une trentaine d'années, tout va dégeler et il disparaîtra.
Laurent Orgogozo, vous aussi, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Ben, on voit que, du coup, dans le permafrost, on a, dans le pergélisol, le permafrost en anglais, on a non seulement des grandes quantités de gaz à effet de serre contenues, mais aussi une grande quantité d'informations sur les écosystèmes passés, etc. Donc c'est en soi un objet très intéressant, un objet de connaissance qui permet d'enrichir nos connaissances scientifiques sur le passé, mais c'est aussi du coup un quelque chose de fragile qui, comme le soulignait Florent, est en train de subir des dommages très importants.
Alors avant de parler de sa fragilité, des dommages que le pergélisol subit, vous venez de dire, il contient des informations du passé. On entendait dans notre archive que le pergélisol était une machine à remonter le temps. Florent Dominé, à quel point est-il ancien ?
Le pergélisol, pour la plupart de sa superficie, en fait, a environ 10 000 ans. C'est-à-dire que c'est lors de la retraite, lors de la fonte des calottes glaciaires de l'ère glaciaire, le sol qui était en dessous n'était plus protégé par la glace du froid et s'est mis à geler. Maintenant, il y a aussi des zones qui n'étaient pas recouvertes de calottes glaciaires et qui étaient très froides, notamment en Sibérie et dans certaines parties d'Alaska, et qui, elles, contiennent du pergélisol qui a jusque 750 000 ans. Et même, on suppose qu'il y a des fragments de pergélisol qui peuvent avoir plus que 1 million d'années. Donc en fait, ça représente dans ce cas-là des archives du passé sur une période extrêmement longue, sur la plupart du Pléistocène, qui est la dernière époque géologique.
Alors où est-ce qu'on trouve du pergélisol? On peut, pour bien se rendre compte, pour bien se le représenter, peut-être se faire une carte ensemble, Laurent Orgogozo.
Alors le pergélisol, on le trouve dans les régions froides, les régions où la température moyenne annuelle de surface est inférieure à 0 degré, puisque le pergélisol, sa définition, c'est du sol qui est gelé en profondeur tout au long de l'année, sur plus d'une année consécutive. Donc évidemment, quand on descend en profondeur, la température du sol devient de plus en plus constante, ne subit de moins en moins les variations saisonnières, c'est pour ça qu'on fait des caves en profondeur pour conserver le vin. Et quand la température moyenne annuelle de surface est inférieure à zéro, en profondeur, le sol est gelé. Donc c'est là, dans ces conditions qu'on a du pergélisol. On le trouve principalement dans les hautes latitudes, dans les régions polaires, également, c'est-à-dire en Antarctique et dans les régions arctiques. Et également, on en trouve une quantité significative au niveau du troisième pôle, c'est-à-dire l'Himalaya, la plus grande région froide en dehors des pôles. Et il y en a même un petit peu en France, au sommet des Alpes.
Et 15 millions de kilomètres carrés, c'est immense comme surface, Florent Dominet.
En fait, c'est équivalent à la surface de la Russie. D'ailleurs, la Russie, c'est le pays qui... Enfin, la Russie fait 14 millions de kilomètres carrés, le Canada 10 millions de kilomètres carrés. Donc, voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que ça représente, 15 millions de kilomètres carrés. Et donc, il y a environ un peu plus de la moitié de la Russie qui est recouverte de pergélisol et la moitié du Canada, la moitié de l'Alaska. Donc, voilà pour fixer les idées.
Alors merci de bien nous rendre compte, on continue de faire un peu cette carte d'identité. Florent Dominet, vous êtes géophysicien de terrain, si on doit faire une coupe du pergélisol, qu'est-ce qu'on observe?
Alors si on fait une coupe du pergélisol, disons en été, donc ce qu'on va avoir sur environ 20 à 100 cm, c'est une couche qui a dégelé à cause de l'été et qu'on appelle la couche active. En dessous de ça, on a le pergélisol qui reste gelé en permanence. Et là, si on arrive à faire une coupe, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est dur, parce que c'est gelé. Ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'on a une alternance de couches de matière organique, de couches de matière et minérale et de couches de glace. Et on peut avoir des couches de glace qui font... fréquemment, dans le pergélisol qui a 10 000 ans, des couches de glace qui vont faire 10, 20, 30, 50 cm. Mais dans le pergélisol plus ancien, tel qu'on le trouve en Sibérie ou dans certaines parties de l'Alaska, on va pouvoir avoir des couches de glace qui font 10, 20, 30, voire 50 mètres d'épaisseur. Voilà. C'est assez spectaculaire. On peut faire des coupes de pergélisol comme ça et s'apercevoir qu'il y a vraiment de la glace sur des épaisseurs phénoménales. C'est très impressionnant.
Laurent Orgogozo.
Alors, effectivement, pour reprendre ce que vient de dire Florent, on a au sommet l'atmosphère avec sa température chaude en été, froide en hiver, et puis très en profondeur, on va avoir la chaleur du centre de la Terre, le gradient géothermique, donc les profondeurs qui sont plus chaudes, et entre les deux, on va avoir cette couche gelée. Dans cette couche gelée, on va trouver de la matière organique, de la glace pure, on en reparlera certainement tout à l'heure pour les risques. On trouve aussi des hydrates de méthane dans le permafrost sous-marin, puisqu'il existe aussi du permafrost sous-marin, principalement au large de la Sibérie. Et donc c'est ce que je pourrais ajouter sur ce qu'a dit Florent.
Alors c'est un écosystème complexe, un pergélisol encore mal connu, mais que referme-t-il, Florent Dominet, par des cimetières de mammouths?
Alors effectivement, on trouve quand on fait par exemple, je sais qu'une fois j'avais descendu la Noatak, qui est une rivière au nord du cercle polaire en Alaska, il y a des berges qui se font éroder, et c'est là qu'un de mes collègues avait trouvé une défense de mammouth piégée justement dans le pergélisol. Donc ça c'est effectivement, donc ça arrive. Mais ce qu'on trouve essentiellement, comme ce qui est très intéressant, c'est des débris végétaux qui sont accumulés là pendant des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Quand vous allez dans nos forêts, par exemple, il y a les feuilles qui tombent, et ces feuilles, en fait, elles vont se décomposer pendant l'automne, pendant l'hiver et pendant le printemps. Et donc, toute la matière organique des feuilles va être recyclée et ça va refournir les nutriments pour la croissance végétale de la saison suivante. Dans le pergélisol, c'est dans les zones gelées, c'est absolument pas comme ça. Parce qu'en fait, comme il gèle pendant l'hiver, les bactéries ne peuvent pas être actives et les débris organiques s'accumulent pendant des dizaines ou des centaines de millions d'années, ce qui forme des réservoirs de matière organique. Alors, il faut bien comprendre que dans le pergélisol, il n'y a pas vraiment de gaz à effet de serre tel qu'on l'entend. Il n'y a pas de CO2, pas de méthane ou pas en quantité significative. Ce qu'il y a, c'est des composés organiques qui peuvent générés, s'ils sont réactivés par la chaleur, si les bactéries peuvent se remettre dedans, ça peut générer des gaz à effet de serre, CO2 et CH4. Mais a priori, le pergélisol ne peut pas être considéré comme un réservoir de gaz à effet de serre, mais plutôt comme un réservoir de précurseur de gaz à effet de serre.
Réservoir de précurseur à effet de serre, et ça on va voir que c'est très important, parce que les scientifiques estiment que la quantité de CO2 piégée entre guillemets dans le permafrost, pergélisol, équivaut à 4 fois celle que les activités humaines ont émises depuis le milieu du 19e siècle, hein, Laurent Orgogozo.
Oui, tout à fait. Et donc ça fait des quantités absolument considérables de carbone qui pourraient être remis à l'atmosphère s'ils étaient minéralisés par l'activité microbienne, par les bactéries, comme vient de le dire Florent. Ce qu'il faut voir aussi pour cette question, c'est que la question de l'eau est primordiale également, puisque si le pergélisol dégèle et donc libère sa matière organique. Si les micro-organismes dégradent cette matière organique en conditions aérées, et là on va avoir du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais si la matière organique est dégradée en conditions anoxiques, c'est-à-dire sous l'eau, par exemple dans un marécage entièrement recouvert d'eau, à ce moment-là c'est du méthane qui est produit. Et le méthane est beaucoup plus à effet de serre que le dioxyde de carbone. Donc le devenir de cette matière organique en fonction des conditions non seulement de température mais aussi de hydrique, des conditions en termes de quantité d'eau dans le milieu, ça peut donner lieu à un effet de rétroaction d'autant plus puissant qu'il y a une plus grande partie de la matière organique qui est méthanisée plutôt que minéralisée sous forme de dioxyde de carbone.
Alors ces effets de rétroaction, on va y revenir. Avant ça, j'aimerais bien qu'on comprenne ensemble aussi comment on étudie le pergélisol, comment on l'observe, parce que contrairement au glacier, le pergélisol ne se trouve pas directement à la surface du sol, il est caché sous sa couche active. Comment on l'étudie dans ce cas-là, Florent Dominé ?
En fait, quand on se promène dans un paysage arctique, c'est pas forcément évident de voir s'il y a du pergélisol ou pas. Bon, alors l'œil exercé connaît les caractéristiques géomorphologiques du pergélisol, donc on va pouvoir le voir, mais disons, si on emmène un touriste qui n'est pas familier avec le sujet dans l'Arctique, il ne va pas pouvoir nous dire s'il y a du pergélisol ou pas. Donc en fait, ce qu'on fait souvent, c'est que déjà, on met des câbles de thermomètres, des types de thermomètres qu'on appelle des thermistances. On va creuser un trou et puis on met une chaîne de thermistances, comme ça, mettons tous les mètres ou tous les 2 mètres, jusqu'à 30-50 mètres de profondeur. Et puis on va faire le suivi, le monitoring des températures. Et il y a des câbles de thermistance qui ont été posés comme ça dans la nature depuis 50-60 ans. Donc en fait, on a quand même des suivis sur le long terme. Ça, c'est pour le suivi de la température. Après, on fait aussi des suivis géomorphologiques. C'est-à-dire que avec le réchauffement du pergélisol, on a une fonte de la glace du pergélisol, donc on a une subsidence du sol, et donc on va avoir une modification de la surface. Par exemple, on va avoir des creux qui vont se former, dans lesquels de l'eau va s'accumuler, ça va former des mares qu'on appelle des mares de thermokarst. Hein. Thermokarst, c'est l'érosion par l'eau, donc des mares de thermokarst. On peut aussi avoir, si on a sur des pentes des couches de glace qui fondent, une déstabilisation des pentes, et on va avoir des glissements de terrain qui peuvent être très importants. Et on a été témoin d'un tel glissement de terrain à Coudjoie Rapide il n'y a pas longtemps, qui a envoyé tout un pan de forêt dans la rivière. Donc on peut faire ces études géophysiques, ces études géomorphologiques, et on peut aussi faire des études géochimiques en regardant, par exemple, les flux de CO2 et de CH4 qui sont émises par la décomposition de la matière organique du pergélisol.
Laurent Orgogozo, sur ces méthodes qu'on utilise.
Alors, une autre. Florent vient d'évoquer l'observation directe. On peut aussi estimer la probabilité de présence du permafrost avec de la modélisation, c'est-à-dire en partant des informations de surface, des observations qui sont directement accessibles, contrairement au permafrost qui est souterrain, comme vous le soulignez. Et donc les données météorologiques, l'état de couvert végétal, etc. Et à partir de ces informations de surface, prédire en utilisant des ordinateurs si on peut avoir du permafrost ou pas dans cette zone, et puis également du coup après prédire éventuellement son évolution sous changement climatique. Donc c'est encore une autre méthodologie pour caractériser les régions de permafrost, c'est de recourir à ces outils de modélisation.
Alors on parle de ces outils de modélisation, de ce qui nous permet de faire du suivi sur du long terme, mais est-ce qu'on sait comment le pergélisol a évolué au cours du temps, s'il a déjà connu une ou plusieurs périodes de dégel, Florent Dominet ?
Ah ouais, effectivement. En fait, si on regarde depuis les 10 000 dernières années, on a eu ce qu'on appelle l'optimum climatique de l'Holocène, il y a 5 ou 6 000 ans. Ensuite, il y a eu le petit âge de glace qui s'est terminé, enfin qui a commencé à la fin du Moyen-Âge et qui s'est terminé vers 1815-1830. Donc en fait, l'extension géographique du pergélisol a suivi cette évolution climatique. Donc a priori, il y a 5-6 000 ans, il y en avait beaucoup moins et il y en avait beaucoup plus au petit âge de glace. Et la régression actuelle qu'on voit du pergélisol, c'est d'ailleurs une combinaison du réchauffement climatique naturel dû à la sortie du pergélisol et surtout maintenant dû au réchauffement du climat dû aux activités humaines. Donc par exemple, moi je travaille sur un site qui s'appelle Kujawara Peak au sud de la baie du Tson au Québec. Et dans cette zone-là, il y a 50 ans, il y avait à peu près 50% de la surface qui était recouverte, enfin qui était pergélisolée. Et maintenant, il n'y en a plus que 5 à 10%. Donc on voit que ça décroît de manière visible et détectable.
Laurent Gogozo, sur l'évolution du dégel au cours de l'histoire ?
Alors, une chose que je pourrais ajouter peut-être à ce que vient de dire Florent, c'est le fait que, d'après certaines études qui ont été menées au CEA pour étudier l'impact possible d'un retour du permafrost sur les sites de stockage géologique à long terme des déchets nucléaires, il y a de fortes chances que au niveau du nord de la France, au niveau du site de Bure, où on prévoit le stockage géologique profond, au cours du dernier maximum glaciaire, il y avait du permafrost qui aurait mis quelques millénaires à disparaître suite au réchauffement post-glaciation. Mais donc en France, il semblerait qu'il y ait eu du permafrost au niveau à l'époque, au moment du maximum glaciaire. Et pour ce qui est de l'évolution actuelle, ce qui est spécifique, caractéristique, c'est qu'elle est significative, elle est vraiment rapide. En quelques décennies, là, sur les 30 dernières années, on observe des dégels très rapides dans beaucoup de régions, avec des conséquences importantes, notamment en surface.
Alors, savons-nous bien évaluer les risques que représente ce dégel ? On y vient.
France Culture. La science CQFD, Natacha Trio.
16h17 sur France Culture, aux côtés de nos deux invités, Florent Dominet et Laurent Orgogozo, nous parlons du pergélisol, permafrost en anglais, et nous venons de faire une petite cartographie. Nous parlons de la rapidité de son dégel, et dans le rapport du GIEC de 2014, d'ici à 2100, le pergélisol de surface devrait perdre, selon le scénario le plus optimiste, jusqu'à 40% de sa surface, et selon le scénario le plus pessimiste, entre 49 et 89% de sa superficie, Florent Dominet.
Alors, donc en fait, ça c'est basé sur des modèles. Et donc Laurent Cogozzo aura sans doute beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ces modèles, en fait, ils sont basés sur certains scénarios d'émissions des gaz à effet de serre. Et ces modèles, en fait, qui sont très élaborés, par contre, ils ne prennent pas en compte aujourd'hui de nombreuses rétroactions qu'on met, nous autres géophysiciens de terrain, en évidence chaque année. Et la plupart de ces rétroactions sont positives. Donc, en fait, vont accélérer encore ce réchauffement. Donc, moi, mon sentiment de chercheur de terrain, ce serait de dire que les modèles actuels sous-estiment la vitesse du réchauffement, essentiellement en Arctique, parce qu'il faut voir que l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que la moyenne planétaire. Et je suis désolé de dire qu'en fait, je pense que le pergélisol va souffrir beaucoup plus que ce que prévoient les modèles les plus pessimistes. Et en fait, mon sentiment à moi, basé sur les observations de terrain, c'est qu'en fait, il y aurait une plus grande proportion du pergélisol qui devrait disparaître que ce que prévoient les modèles du GIEC.
Avant de parler de cette sous-estimation des modèles du GIEC, Laurent Orgogozo, j'aimerais bien qu'on rappelle ensemble qu'est-ce que c'est une boucle de rétroaction positive, ce qui n'est pas du tout positif pour nous d'ailleurs.
Alors, une boucle de rétroaction positive, c'est quand le réchauffement entraîne une modification de l'environnement qui provoque un réchauffement supplémentaire. Alors, on peut citer deux exemples. Un exemple en dehors du permafrost, c'est la banquise qui fond. Comme la banquise réfléchit de manière très efficace le rayon du sol, les rayonnements solaires. Si elle fond, il y a plus de rayonnements solaires absorbés par l'océan, et donc, comme elle fond à cause du réchauffement, l'océan Arctique devient de plus en plus chaud, et donc on a une rétroaction positive. Plus il fait chaud, plus il fait chaud. Et donc les rétroactions de libération de matières organiques qui peuvent être minéralisées et remises à l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre, comme on l'a expliqué, c'est aussi une rétroaction positive. Plus il fait chaud, plus le pergélisol dégèle, et plus il y a une grande quantité de gaz à effet de serre qui peut être remis à l'atmosphère. J'ai envie de rajouter un petit mot par rapport à ce que Florent a expliqué sur les incertitudes sur les modèles. Alors, je suis pas spécialiste de modélisation globale, plutôt de modélisation à l'échelle locale, à l'échelle d'une vallée par exemple, du permafrost. Mais j'ai envie de citer la figure du rapport du GIEC de 2019 sur le rapport spécial sur la cryosphère qui mentionne une incertitude très importante sur le devenir du permafrost, puisque dans le cas du scénario le plus optimiste, on avait une évolution modérée du permafrost d'ici à 2100 par rapport à l'actuel. Et dans le cas du scénario le plus pessimiste, on a une disparition totale du permafrost en 2080. Donc d'après ces résultats de modélisation, c'est uniquement des résultats de modélisation publiés en 2019 par le GIEC. Donc là on voit qu'on a une incertitude qui est considérable. Et qui vient notamment, évidemment, du fait qu'il y en a beaucoup de progrès à faire sur la prise en compte de l'ensemble des processus qui se produisent et qu'on observe sur le terrain dans la dynamique du permafrost.
Oui, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Florent Dominet, hein, qu'il est important d'intégrer le pergélisol au modèle climatique.
Effectivement, ça constitue une boucle de rétroaction positive phénoménale. Et comme en fait l'Arctique est extrêmement sensible au réchauffement climatique, les incertitudes sur l'échauffement climatique sont beaucoup plus fortes dans l'Arctique. Il y a certains modèles qui prédisent qu'en fait l'Arctique va se réchauffer de 15 à 20 degrés d'ici 2100. Et selon l'ampleur de ce réchauffement, la disparition du pergélisol pourrait varier beaucoup. Mais ça dépend énormément aussi du scénario. La plus grande incertitude, en fait, c'est le scénario d'évolution des gaz à effet de serre. Dans les gaz à effet de serre, on parle de scénario 4.5, 8.5, etc., selon la quantité d'émissions des gaz à effet de serre. Et c'est sûr que si l'augmentation des gaz à effet de serre se poursuit comme aujourd'hui, le pergélisol aura disparu complètement, presque complètement, d'ici 2100.
Et la fonte totale du pergélisol, concrètement, quelles seraient les conséquences ?
Ben, la conséquence, ce serait déjà un relargage très important de gaz à effet de serre qui augmenterait le réchauffement. Ce serait aussi une modification catastrophique, en fait, enfin une modification vraiment très rapide de la végétation. Ce serait une modification de la géomorphologie avec en particulier une érosion côtière qui serait énorme. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de côtes qui sont de zones côtières qui sont gelées, et si elles sont dégelées, elles vont être très fragilisées et ça va produire de l'érosion. Il y a déjà des villages qu'on parle de relocaliser, des villages inuits dans le nord du Canada qu'on parle de relocaliser parce qu'ils sont vulnérables. Ça veut dire aussi toutes les structures qui sont construites sur le pergélisol, par exemple des routes, des bâtiments, etc., qui risqueraient de s'effondrer, avec en fait des conséquences dramatiques, notamment en Russie, où c'est là qu'il y a la plus grande population qui vit sur le pergélisol.
Et certaines études estiment aussi que ce dégel pourrait à lui tout seul provoquer une augmentation de 1 degré de la température moyenne de la planète.
Oui, enfin, et là, je pense que ce serait bien de laisser parler Laurent, qui fait pas mal de modélisation sur ce sujet. Mais à mon avis, la rétroaction serait beaucoup plus forte, parce que si toute la matière organique du pergélisol était transformée en CO2, en fait, la quantité de CO2 dans l'atmosphère serait multipliée par 2,5. Donc ce serait bien plus que 1 degré, ce serait plutôt la quantité de... le réchauffement serait plutôt de l'ordre de 10 degrés.
Laurent Orgogozo ?
Oui, d'autant plus que il y a une incertitude très très importante sur les processus exacts de minéralisation de la matière organique. Comme j'ai dit tout à l'heure, si cette minéralisation elle se fait dans des mares, dans des milieux immergés, l'effet sera encore beaucoup plus important, puisqu'à ce moment-là, ce sera du méthane qui sera émis avec un pouvoir à effet de serre 23 fois supérieur à celui du CO2, si je dis pas de bêtises. Donc la magnitude de la rétroaction positive, ce qu'on appelle le permafrost carbon feedback, le PCF, la boucle de rétroaction positive du pergélisol, cette magnitude, c'est un sujet de recherche en cours. On suppose qu'elle va être absolument considérable.
Au sujet de l'impact potentiel du dégel sur le cycle du carbone, ça, c'est une des préoccupations majeures dans la communauté scientifique. On entend souvent que le dégel du pergélisol, ça représente un point de bascule du climat, Florent Dominé.
Ouais, un point de bascule du climat, pas seulement... Oui, bien sûr, ça va faire passer le climat dans une autre configuration et dans une autre dimension, mais pas seulement le climat, ça va faire passer aussi la végétation, ça va faire passer toute la faune. Et sans doute ça va interagir aussi avec la fonte de la banquise et donc tous les processus océaniques. En fait, on va se retrouver sur une planète qui aura pas grand-chose à voir avec celle qu'on connaît actuellement. Parce que le gradient, comme les pôles vont se réchauffer beaucoup plus, le gradient de température entre les pôles et l'équateur, qui est en fait un moteur de la circulation atmosphérique et un moteur de la circulation océanique, va complètement changer. Donc en fait, toutes les vents, tous les systèmes météorologiques dont on a l'habitude vont plus être les mêmes, les courants océaniques vont plus être les mêmes. Le courant océanique dont on parle le plus, c'est par exemple l'arrêt du Gulf Stream. C'est pas pour demain, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc en fait, on va être dans une planète qui, au niveau géophysique et au niveau biologique, fonctionnera d'une manière complètement différente. Comment est-ce que l'humanité pourrait s'adapter sans douleur à cette modification brutale? C'est un gros sujet d'inquiétude.
Laurent Orgogozo.
Permanence du changement. J'ai envie d'ajouter que ces changements qu'on anticipe très importants et potentiellement brutaux, ils peuvent être aussi très complexes, très contre-intuitifs. Par exemple, la taïga, donc c'est la forêt boréale qui s'étend principalement en Sibérie, mais aussi sur l'Alaska et le Canada. C'est le plus grand biome terrestre, 14% de la surface émergée, si je ne dis pas de bêtises. Et en beaucoup de régions, on a des pluviométries la quantité d'eau qui tombe sur cette taïga est très très faible. C'est plutôt des pluviométries de désert. Et il y a des arbres là, parce que le permafrost retient l'eau en surface, en fait, empêche l'eau d'être évacuée vers les profondeurs. Si donc, on peut imaginer que dans certaines régions de la taïga, la fonte du permafrost, le réchauffement climatique, ça entraîne pas une végétation plus luxuriante, mais au contraire une désertification. Et donc ça, c'est un exemple pour dire que les effets des changements locaux et globaux entraînés par la fonte du permafrost, par le dégel du pergélisol, ils sont très complexes à anticiper et ils pourraient nous surprendre.
Par rapport à cet effet de surprise, et pour revenir aussi sur cette idée de vitesse du dégel, selon une récente étude parue dans la revue Nature Climate Change, le point de non-retour de la fonte du permafrost est imminent. Le tipping point pourrait être atteint beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait, Florent Dominé.
En fait, comme le disait Laurent, avec grande justesse, en fait, il y a énormément d'incertitudes sur ces... Il y a des processus, des interactions entre différents compartiments environnementaux qu'on comprend très mal. Et effectivement, en Alaska, par exemple, la forêt boréale, la taïga en Alaska, la précipitation moyenne, c'est 250 mm. C'est, comme le disait exactement Laurent, c'est une précipitation de désert. Et depuis 30 ans, la température de cette forêt boréale a augmenté de 2 à 3 degrés et les précipitations n'ont pas augmenté. Il y a d'autres régions où les précipitations ont augmenté. Donc en fait, la température, de combien elle va augmenter et de combien vont augmenter les précipitations concomitamment, ça c'est un sujet de grosse incertitude. Et en fait, le point de bascule va dépendre en fait de l'interaction entre ces divers variables. L'expansion de la forêt, le réchauffement de la forêt, l'augmentation des précipitations, etc. Par contre, ce qu'il faut voir quand même, c'est que dans le passé lointain, il y a plusieurs dizaines de millions d'années, on était dans un climat beaucoup plus chaud. Et comment était ce climat beaucoup plus chaud? Ben, en fait, il y avait de la forêt, même parfois de la forêt équatoriale, dans des zones polaires. Donc en fait, si on regarde un peu le passé comme un indice sur ce que pourrait être l'avenir, si on exagère le changement climatique, on pourrait très bien se retrouver avec, au Groenland, en Alaska, dans l'Arctique canadien, en Sibérie, une forêt très dense et une forêt de style, quasiment une forêt de style tropical.
Under Ice à 16h32 sur France Culture, car nous parlons du dégel du pergélisol aux côtés de Florent Dominé, directeur de recherche au CNRS et chercheur au laboratoire franco-canadien TACUVIC, et aux côtés de Laurent Orgogozo, coordinateur scientifique du projet ANR Hyperboréa et maître de conférence au laboratoire Géosciences Environnement Toulouse. Nous venons de voir quels étaient les risques climatiques liés au dégel du permafrost, que ce dégel est à la fois une conséquence et une cause du réchauffement climatique. Maintenant, parlons des risques sanitaires. Le permafrost contient quelques surprises.
Tchoukotka en Sibérie, des températures entre moins 15 et moins 35 degrés, un sol gelé en permanence appelé le permafrost. Et c'est précisément dans les entrailles de cette terre hostile que des chercheurs ont débusqué un virus congelé depuis 30 000 années, un virus juste en sommeil et que des scientifiques français ont pu réveiller dans ce laboratoire de Marseille. Le voilà, le pitovirus sibéricum, tellement gros qu'il est visible au simple microscope optique. Une sorte de mammouth dans la famille des virus.
Il est beaucoup plus gros que les virus habituels, puisque un virus de la grippe, par exemple, fait un volume 1000 fois plus faible que celui-ci.
Il existe dans les couches profondes du permafrost des virus qui sont réactivables, des gros virus à ADN qui sont réactivables. Donc il faut maintenant se poser la question de savoir de quoi sont composés ces sols, faire un recensement vraiment de tout le matériel génétique qui peut s'y trouver.
Car l'enjeu est de taille. Le nord de l'Arctique possède des ressources minières et va attirer de multiples équipes humaines pour les forer. Alors les chercheurs voudraient être sûrs qu'en creusant, les hommes ne tomberont pas sur des virus toxiques.
Voilà une réaction à cet archive, Laurent Dominé.
Ouais, effectivement. Bon, alors tout d'abord, la première réaction, c'est que je ne suis pas expert en virologie, je ne suis pas microbiologiste. Par contre, bon, j'ai des collègues microbiologistes avec qui je discute de temps en temps, et en particulier, j'ai sous les yeux un article de cette équipe, l'équipe de Mathieu Legendre à Marseille. Et bon, des virus géants, il y en a partout. Il y en a dans les mares, il y en a dans le sol, il y en a dans le pergélisol. Alors, il y a des virus qui ont jusqu'à 30 000 ans, même plus que cette équipe a réussi à réactiver, mais a priori, bon, encore une fois, je ne suis pas expert dans le domaine, a priori, la plupart de ces virus ne sont pas forcément toxiques. Maintenant, on n'est pas à l'abri de surprises, mais en fait, il y a, à mon avis, pas de moyen de savoir a priori si on va tomber sur des virus toxiques. Alors les gens, ce qu'ils font, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils prennent des échantillons de sol, ils analysent le métagénome, c'est-à-dire toutes les séquences ADN qu'il y a dans ce sol, ils regardent en fait à quel type de virus ça peut correspondre. Maintenant, je crois comprendre quand même qu'ils sont pas capables aujourd'hui de déterminer à partir de ces séquences si les virus vont être toxiques ou pas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on est en face d'une grande inconnue et que c'est un sujet actif de recherche sur lequel les chercheurs se penchent et en particulier cette équipe de Marseille.
L'idée que d'autres familles de virus puissent survivre pendant plusieurs millénaires dans le permafrost, c'est maintenant bien établi, ça en tout cas, Laurent Ogorgozo.
Tout à fait. Je le disais la semaine dernière dans l'Humanité, un article qui présentait des vues sur cette question du professeur Jean-Michel Clavry, qui est spécialiste de cette problématique des virus dans le permafrost. Donc il y a des inquiétudes, nettement plus pour les virus que pour les bactéries. On pourrait poser avoir le même genre de questionnement sur les bactéries, mais l'idée qui était développée dans cet article, c'est que les bactéries devraient a priori être sensibles au traitement antibiotique, ne les ayant jamais vues. Par contre, pour les virus, l'incertitude serait beaucoup plus grande sur leur dangerosité potentielle. Donc là, je rejoins tout à fait Florence, c'est un sujet actif de recherche.
Ouais, est-ce que ce dégel, c'est aussi le risque de réapparition potentielle de maladies que l'on pensait éradiquer, comme le virus de la variole? En 2004, on a identifié des séquences d'ADN du virus de la variole dans le corps momifié d'une femme préservée dans le permafrost depuis près de 300 ans. Florent Dominé.
Ouais, écoutez, encore une fois, il y a énormément d'incertitudes. Hein. C'est des choses qui ont été scellées par le froid il y a des dizaines de milliers d'années. Qu'est-ce qui va en sortir à l'heure actuelle? On ne sait pas, mais c'est pareil dans la glace, dans les calottes de glace, il y a des bactéries et sans doute des virus qui sont là depuis des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Hein, par exemple, les chercheurs russes sur la base russe de Vostok, ils ont extrait des échantillons de glace qui avaient plus de 100 000 ans et dedans il y avait des bactéries. Il y avait sans doute des virus, mais ils n'ont pas cherché. Donc en fait, on n'est pas à l'abri de surprises. La fonte des calottes glaciaires et des glaciers peut aussi nous réserver bien des surprises. Il n'y a pas que le dégel du pergélisol.
Oui, puis on a vu aussi l'épidémie d'anthrax de 2016 en Russie. Laurent Ogorgozo, en tout cas, cette histoire de libération des virus et bactéries, tout ça, c'est que des menaces potentielles. Par contre, il y a des menaces beaucoup plus concrètes. Quels sont les risques naturels?
Absolument. Actuellement, il y a déjà beaucoup d'articles qui ont été publiés depuis au moins 10 ou 15 ans qui documentent les dommages en surface que génère le dégel du pergélisol, notamment en particulier parce que dans le pergélisol, il y a des lentilles de glace d'eau pure, alors qui peuvent être très très grandes dans certaines zones, comme le disait Florent au début d'émission, mais qui, même si elles font que simplement quelques dizaines de centimètres, en dégelant, elles déstabilisent le sol, font des tassements différentiels en surface, et ça détruit les routes, ça détruit les bâtiments, ça détruit les ports, les pipelines, les lignes électriques, etc. Et donc ça génère énormément de problèmes pour la sécurité des personnes, de l'environnement et des investissements en Arctique. Donc il y a 5 millions de personnes qui vivent sur du pergélisol qui est en train de dégeler, donc. Et il y a beaucoup d'activités économiques importantes, des ressources énergétiques, des ressources minières, déjà exploitées ou qui pourraient l'être dans un futur proche. Et donc, effectivement, ces dégâts liés à la déstabilisation du sol par la fonte du pergélisol, c'est un problème très très important. On chiffre en dizaines de milliards de dollars le coût que ça devrait avoir d'ici à 2050.
Oui, c'est que, Florent Dominé, ce dégel, c'est à la fois une urgence climatique et une urgence humaine.
En fait, pour illustrer ça, je peux prendre l'exemple du village Inuit, donc Eskimo pour les gens qui ne sont pas familiers avec le mot Inuit, le village Inuit de Saluit, au nord du Québec. En fait, ce village est construit au fond d'une vallée en bordure de mer, dans une zone de pergélisol riche en glace. Donc le pergélisol n'est pas toujours riche en glace. Hein. Quand on a du pergélisol sur des sols à gros grains, en général il est pauvre en glace et ça pose pas de problème si le pergélisol dégèle. Par contre, quand on a du pergélisol qui est sur du sol à petits grains, à ce moment-là, il y a de la glace qui se met dedans, il y a des lentilles de glace qui se forment, des grosses couches de glace, 10, 20, 30, 50 cm qui peuvent se former. Et là, si ce pergélisol dégèle, la glace va fondre et tout le terrain va s'affaisser. Et en fait, Saluit, c'est exactement ça, parce que c'est sur une zone de pergélisol riche en glace. La zone se réchauffe et les gens ont prévu, enfin les Québécois ont prévu que d'ici à 50 ou 100 ans au plus tard, en fait, toute la zone allait dégeler et que le village allait s'enfoncer dans la mer. Donc en fait, là, ils sont en train de prévoir un plan de délocalisation et de reconstruction du village un peu plus en hauteur sur des affleurements rocheux qui seraient stables et qui ne seraient pas affectés par le dégel du pergélisol. Donc en fait, il y a pas mal de gens qui vont avoir leur vie complètement bouleversée par le dégel du pergélisol.
L'accélération de ce dégel a d'autres enjeux que des enjeux climatiques, sanitaires, humains. Ces enjeux peuvent aussi être culturels. Bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Pour le reportage du jour, vous vous êtes intéressé aux problématiques archéologique soulevé par le dégel du pergélisol.
Oui, et pour évoquer ces enjeux qui soulèvent de nombreuses questions dans la pratique de l'archéologie, j'ai rencontré Claire Alix, qui est maître de conférence à l'Université Sorbonne Paris 1 et qui est par ailleurs directrice de l'unité mixte de recherche archéologie des Amériques. J'ai également rencontré Yann-Axel Gomez-Coutouli, qui est chercheur CNRS au sein de cette unité. Tous les deux travaillent dans le Grand Nord de l'Amérique, où l'on trouve du pergélisol ou bien des névés, ces neiges dites éternelles qu'on appelle ice patch en anglais. Et ils nous expliquent comment ces substrats gelés ou glacés permettent une conservation remarquable de certains vestiges archéologiques, mais également comment l'accélération du changement climatique et donc de la fonte et du dégel augmente le risque de dégradation des sites non encore fouillés.
J'ai sorti toutes ces pièces-là pour montrer la différence entre un site de plein air classique et ce qu'on retrouve dans les ice patch. Donc ici, on retrouve des pièces archéologiques donc qui datent d'il y a environ 10 000 ans dans le centre de l'Alaska. Et on retrouve des nucléus, des pièces bifaciales, des burins, des grattoirs et des centaines, des milliers de restes de débitage. Différents outils qui représentent différentes activités, mais aussi tous les restes de débitage qui ont été laissés par les tailleurs préhistoriques.
Alors là, si on fouille un petit peu là-dedans, est-ce qu'il y a des éléments qui sont à décrire en particulier ? Tout ça vient d'une même région ?
Voilà, donc là on est dans la région centre de l'Alaska. Et c'est une région où ils sont connus pour faire notamment des toutes petites lamelles. Donc ils ont des nucléus sur lesquels ils détachent des toutes petites lamelles qu'ils vont utiliser soit comme insert pour des couteaux sur des pointes en os ou en bois animal. Donc soit avec des petites lamelles, mais il y a aussi des pièces bifaciales qui peuvent également servir soit de couteaux, soit de pointes de projectiles. Et donc la question qu'on a souvent sur ces sites-là où on n'a pas de reste organique, c'est est-ce que ces pièces ont servi comme pointe de projectile ou comme couteau ? Ça, seule la tracéologie peut le dire, en l'absence de matière organique. Et comment est-ce qu'elles étaient emmanchées ? Ça, c'est beaucoup plus compliqué à le savoir quand on n'a aucun reste organique. D'où cet apport majeur et complémentaire de l'archéologie des névés, où il n'y a pas de site. Il n'y a pas d'occupation avec des foyers, avec différentes activités, avec toute une série d'outils divers, mais on a des objets isolés avec toute la composante organique, c'est-à-dire des pointes de projectiles avec l'emmangement, avec l'empennage, avec les hampes, avec tout. Et ça permet de voir comment elles étaient emmanchées, comment elles étaient utilisées.
Pour préciser, en fait, les névés, ce n'est pas des sols gelés, c'est vraiment de la neige gelée. Donc là, on est dans un contexte quasiment de glacier, en fait. Quand on est dans de l'archéologie des sols gelés, ce qu'on a sur la côte principalement, là où dans les contextes où je travaille, où là, on est vraiment dans le pergélisol, et où là, on a aussi une préservation qui est absolument remarquable de tout ce qui est matières organiques. Et on va avoir les bois, les peaux, le fanon de baleine, les plumes, enfin on a tout qui est préservé quand on est dans la partie constante du pergélisol. Et le gros risque pour ces sites-là actuellement, puisqu'on parle d'archéologie, c'est que le molysol, la partie donc active du pergélisol, est de plus en plus large, épaisse en fait. Et donc les objets archéologiques et les structures archéologiques se retrouvent dans cette couche de sédiments qui va être sujette à des gels et regels. Et là, les choses commencent à se détériorer. Donc ça, c'est la spécificité des sites dans les sols gelés. Dans les névés, là, on est dans de la neige éternelle, enfin de la neige gelée, qui est en train de fondre. Et donc, à mesure du recul de ces plaques de neige, en fait, vont apparaître des objets qui ont été perdus au cours de ces moments de chasse. Et la difficulté pour les archéologues, ça va être justement d'être là au moment où les objets sortent de cette neige, de cette glace. Si l'archéologue n'est pas là pour collecter l'objet au moment où il sort de la petite capsule dans laquelle il a été préservé toutes ces années, il va commencer à se détériorer.
Quelles sont les spécificités des névés du pergélisol pour la conservation d'artefacts, pour la conservation de vestiges ?
En fait, ça les gèle, donc ils sont congelés. Et si l'espace dans lequel ils sont enfermés ne varie pas, ils peuvent rester comme ça pendant des millénaires, en fait. Donc, ce qui est fantastique, c'est que ça conserve tout, en fait. L'ocre qui a été appliqué sur le bois, il est conservé. Il y a quelques années, ils ont trouvé une sagaie qui fait quasiment 3 mètres de long et qui est complète. C'est-à-dire que, et c'est ça l'intérêt, c'est qu'on a des objets complets, en fait. De ces périodes anciennes, qui est à peu près datée, si mes souvenirs sont bons, c'est vers entre 3000 et 4000 ans. Et on a la ligature, la pointe emmanchée, jusqu'aux plumes qui constituent l'empennage. Donc c'était une sagaie qui était lancée au propulseur.
Donc c'est finalement des substrats qui permettent une proximité assez forte avec le moment où ces objets sont tombés, ces objets ont été laissés de côté. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que le fond du pergélisol, finalement, est la partie la plus menacée en ce moment. Est-ce qu'il y a des zones où c'est particulièrement critique dans les régions que vous analysez en ce moment et où il y a des plans de recherche qui se mettent en place, un petit peu comme des plans d'urgence, finalement, pour sauver des vestiges archéologiques ?
Je dirais que c'est quasiment tout l'Arctique côtier, Sibérie, Nord-Amérique, Islande. En Islande, c'est très problématique, Groenland aussi. Et il y a un groupe d'archéologues qui est très concerné par ces questions-là et qui s'est mis en place et qui essaye de réfléchir justement à quel est le meilleur angle d'attaque pour essayer de sauvegarder ce patrimoine qui est en danger et qui est en train soit d'être érodé du fait de l'érosion des côtes accélérée par le réchauffement climatique, soit qui est en train de se dégrader du fait de la fonte du pergélisol et donc du réchauffement des sols, en fait. Donc il y a des monitorings qui sont faits sur certains sites où on sait que la préservation est très bonne, mais où on n'a pas... l'archéologue ne fouille pas un site dans sa totalité, puisqu'il en laisse pour les générations futures d'archéologues. Mais la question, là, c'est est-ce qu'il faut justement fouiller complètement pour sauvegarder ce qui est dans l'état où il est aujourd'hui ou attendre. Donc voilà, c'est des questions qui sont compliquées. Il n'y a pas de réponse facile, en fait, parce que c'est un territoire immense. Il y a beaucoup de types de sites différents. Mais voilà, il y a des gens qui s'organisent, pour des archéologues qui s'organisent pour essayer de régler ces problèmes-là.
Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. Nous avons vraiment présenté toutes les problématiques scientifiques liées à ce dégel. Nous arrivons à la fin de cette émission. Maintenant que nous avons dit tout ça, Florent Dominé, que peut-on faire ? Comment retarder le dégel du pergélisol ?
Comment retarder le dégel du pergélisol ? Il y a, à mon avis, une seule solution. C'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, puisque vous amenez le sujet, en fait, je pense que nos dirigeants ne font peut-être pas tout ce qu'on pourrait faire sur ce sujet. Et alors, j'aimerais attirer l'attention de nos auditeurs sur un rapport qui vient d'être publié ces jours-ci sur le World Inequality Report, les rapports sur l'inégalité mondiale. Et la conclusion de ce rapport, c'est qu'en fait, un des facteurs essentiels d'émission des gaz à effet de serre, c'est les inégalités sociales sur la planète. Et en fait, ce rapport dit, il y a comme auteur, par exemple, des gens très connus comme Thomas Piketty, etc. Donc c'est un rapport qui n'est pas un rapport politique, c'est un rapport qui est scientifique. Et ce rapport nous explique qu'en fait, les 1% les plus riches de la planète émettent une proportion incroyable des gaz à effet de serre émis par la planète, de l'ordre de 25%. Et que, en fait, le manque de taxation de ces grosses fortunes est responsable pour une grosse partie des émissions de gaz à effet de serre. Et en particulier, j'ai sous les yeux un article du Monde qui parle de ce rapport et qui nous dit, il parle d'une taxe surnommée 1,5% pour 1,5 degré, et ils disent qu'ils taxeraient à hauteur de 1,5% le patrimoine des millionnaires gagnant de plus de 100 millions de dollars par an, et ça fournirait environ 300 milliards de dollars, ce qui correspond aux besoins pour limiter les impacts du changement climatique. Donc en fait, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ce rapport suggère de taxer les grosses fortunes pour financer la lutte contre le changement climatique. Donc je pense que ce serait pas mal de réfléchir à cette possibilité qui, malheureusement, quand on écoute les dirigeants de la planète, n'est absolument pas dans l'air du temps.
L'autre chose qui est important de dire aussi, Florent Dominet, hein, c'est qu'il n'est pas trop tard encore si on veut réduire, limiter le dégel du permafrost.
Ouais, il n'est pas trop tard, mais en fait, on est quand même dans une dynamique où il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, il faut changer de logiciel. Si on veut stopper, limiter le changement climatique, il faut arrêter d'être dans cette logique de croissance, d'augmentation des écarts sociaux, des écarts de fortune, etc. Il faut complètement changer de logiciel. Voilà. Là, c'est sûr que si on reste dans ce logiciel-là, on n'y arrivera pas.
Laurent Orgogozo, pour parler encore, pour conclure, hein, que faire, que ne pas faire face à ce fléau qui est la fonte du permafrost ?
Alors, je rejoins à 100% ce que vient de dire Florent. J'ajouterais que je pense qu'il faut aussi se préparer à ce qu'il y ait un réchauffement significatif et essayer d'en limiter au maximum les dégâts. Je pense par exemple qu'un fait qui mérite d'être mis en avant, c'est que pour la première fois de l'histoire récente, en tout cas l'année dernière, dans le top 3 des fortunes mondiales, il y a un Asiatique qui est rentré, c'était un Indien, Adani. Sa spécialité, c'est la production d'électricité au charbon. Donc la situation est celle-ci, il y a effectivement un rebond du marché du charbon qui est très très important en ce moment, qui va évidemment à l'encontre de tous les objectifs en termes de réduction des émissions. Et donc, même si évidemment il faut mettre toute l'énergie possible pour limiter au maximum le réchauffement climatique, je pense qu'il est raisonnable également de se préparer à ce que il y ait quand même un réchauffement non négligeable, et donc essayer au maximum d'anticiper les dégâts et essayer de les limiter.
Oui, c'est terrible. C'est la conclusion de la plupart de nos émissions sur ces sujets environnementaux. La conclusion, le fin mot de l'histoire, c'est la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre qui réchauffe notre planète, la réduction des énergies, des combustibles fossiles. Merci en tout cas à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure, nous avoir fait prendre conscience des multiples dimensions de ce problème. Il est l'heure de retrouver notre chronique Le Pourquoi du Comment et nouveauté pour cette année 2023. Nous avons la joie d'accueillir chaque jeudi le célèbre biologiste Gilles Boeuf. On l'écoute.
Bonjour à toutes et tous, bien sûr, pour démarrer cette série de chroniques. Alors, je vais démarrer par quelque chose que je connais bien, puisque je suis actuellement le président d'une association qui gère une réserve naturelle dans les Pyrénées-Orientales, la forêt de la Massanne. Je découvre cette forêt quand je prends mes responsabilités de directeur du laboratoire Arago à Bagnols-sur-Mer, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, c'était en 1999. Et cette forêt, elle est magique. Des écologistes, des militants vont se battre pour que dans les années effectivement 70, ce lieu géographique ne soit pas transformé en un golf. Hein, c'est l'idée qu'ils avaient à l'époque au-dessus d'Argelès. Alors, la commune d'Argelès est propriétaire du terrain. D'ailleurs, c'est assez intéressant de signaler que Argelès-sur-Mer est la seule commune de France qui possède deux réserves naturelles sur son territoire, avec celle du Mas-Larieux, l'embouchure du Teche. Alors, la Massanne, elle est créée comme réserve naturelle parce que c'est un lieu exceptionnel. Aujourd'hui, c'est l'endroit en Europe où ramener à la surface 336 hectares, c'est pas très grand, hein, on a un maximum d'espèces. On a dépassé 10 000 espèces. Et en gros, 10 000 espèces pour du terrestre, ça veut dire plus de la moitié d'insectes. Alors cette forêt exceptionnelle parce qu'on l'a beaucoup étudiée, Elle est située à Carrefour. On a ici, dans Forêt de la Massane, des espèces du nord de l'Europe, de Scandinavie, qui viennent mourir dans le sens géographique du terme. Des petits lucanes en particulier, dans cette forêt. Et puis à l'inverse, des espèces de la faune africaine ou ibérique qui viennent dans l'autre sens, vers le nord, arrêter leur répartition sur cette forêt. Donc un carrefour incroyable, une hêtraie. C'est la hêtraie le plus au sud de la France, située entre environ de 800 mètres. Et cette hêtraie a une particularité. Elle avait été beaucoup abîmée, effectivement, au XIXe siècle. Les femmes de Collioure allaient y faire du bois, pour faire du charbon de bois. Mais on l'oublie un petit peu. La nature oubliée, elle vit cachée, elle est très contente. Et on ne l'a pas exploitée. On n'a pas coupé un arbre depuis 1860, ce qui est assez exceptionnel, bien sûr, en France. On a laissé la forêt en libre évolution. Ce qui fait qu'en 1973, grâce aux efforts d'un chercheur du laboratoire Arago, qui s'appelle Joseph Travé, on va la classer. C'est la 5e réserve naturelle de France. Et depuis, cette réserve a été, en dehors de notre ami Travé, repris par des gens plus jeunes, Jean-André Magdalou, Joseph Garrigue, et puis des femmes, Diane Sorel et Elodie Magnano, depuis quelque temps, pour l'étudier encore plus finement que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Alors, il y a une station météo, on enregistre l'évolution de la température, des précipitations, et on suit très bien le changement climatique. On se rend compte qu'aujourd'hui, il pleut de moins en moins, il fait de plus en plus chaud. On a très mal vécu, la forêt a très mal vécu la canicule de 2003, et vous imaginez que celle de 2022 n'a pas arrangé les choses. Donc, pour nous, c'est une sentinelle extraordinaire du changement climatique. Une hêtraie très au sud, en libre évolution. Alors, on fait des choses qui sont un peu étranges pour une réserve naturelle. On y laisse des vaches. Une petite vache de l'Albert, qui est spécifique, une race de la région, habituée à la montagne, en tout cas aux pentes. Et cette vache, elle est extrêmement utile parce que simplement, elle empêche que la forêt puisse se fermer sur l'altitude, sur les cimes hautes. Elle est sur la frontière espagnole, en pays catalan, français et espagnol. Et puis surtout aussi, ces vaches amènent, bien sûr, des déjections dans la forêt. Et on a plus de 80 espèces de scarabées coprophages, mangeurs de crottes de vaches, de bouses de vaches, qui sont là grâce aux vaches. Donc c'est pour dire qu'une déprise agricole où ces vaches disparaîtraient ferait qu'on perdrait de la diversité biologique. Une déprise agricole peut aussi être symbole de perte de biodiversité. Donc biodiversité fabuleuse, on y connaît très bien, bien sûr, les oiseaux, les mammifères, les poissons, tous les vertébrés. Mais maintenant, on fait des inventaires de groupes beaucoup plus difficiles à étudier. Hein. Les tardigrades, les collemboles, les tout petits nématodes, les diatomées. Donc voilà, et cette chronique, je voulais la dédier à la forêt de la Massane, qui a été classée l'an dernier, en 2021, en patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Une gloire assez fantastique pour une forêt française, il n'y en a que trois. Donc voilà, ma chronique, c'est pour vous dire que si on laisse un petit peu la nature se régénérer, eh bien, elle se débrouille pas si mal que ça. Et pourquoi est-ce qu'on a autant d'espèces? Parce qu'on y laisse, bien sûr, le bois mort. Hein. Et ce qu'on appelle les saproxyliques, espèces qui vivent dans le bois mort, sont extrêmement abondantes. On a au moins un tiers d'espèces en plus que dans les forêts gérées à côté, où on enlève les arbres qui sont morts. Alors, j'aimerais signaler aussi sur cette forêt le travail extraordinaire qui a été fait par ces personnes que je présentais tout à l'heure. On connaît plus de 50 000 arbres marqués un par un depuis 50 ans, en fait. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a nulle part endroit où on a pu faire ça. Et cette connaissance intime de cette forêt amène justement à la rendre comme un symbole de la connaissance de la forêt méditerranéenne. Donc voilà mon histoire, la forêt de la Massane. On l'aime, on la protège, et puis surtout, on la garde précieusement comme témoin du changement climatique, comme sentinelle de ces questions.
Merci Gilles Boeuf pour cette nouvelle chronique. Le rendez-vous est noté, on vous retrouve chaque jeudi sur cette antenne, et à toute heure en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Merci à vous pour votre écoute, merci à toute l'équipe, sans qui cette émission ne serait pas grand-chose. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Prima Agnolo, Natacha Demoule, Céline Lausanne, Eve Etienne, Nafi Terrasse à la réalisation, Sam Bakiast à la technique aujourd'hui, Alex Dang. Vous pouvez donc nous podcaster, mais vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, chiche, @sciencesqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.
Une série à la première personne et comme une enquête, Jérôme Sandelard prend la mesure de son apnée du sommeil et en profite pour explorer cet état qui ne va pas toujours de soi.
Perrine Kervran.
Hypersomnie, narcolepsie, somnambulisme, cycle de sommeil, canard qui ne dorment que d'un œil et chambre à coucher, LSD vous aide à vous mettre au lit.
LSD, la série documentaire, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.